partenariat officiel entre RCJ et Cannes Israël en français. RCJ, média du FSJU, et Cannes en français, la radio publique israélienne, partagent leurs programmes. Pour être encore plus près de l'actu en France et en Israël et en France, restez branchés. Téléchargez l'application mobile gratuite de RCJ pour écouter Cannes Israël en français, avec le concours du FSJU France-Israël.
Nous avons en ligne notre experte Yael Ifra. Yael Ifra qui va nous proposer tout d'abord une revue de presse. Bonsoir Yael.
Bonsoir Emmanuel.
Alors Yael, vous avez choisi, vous avez sélectionné quelques articles dans la presse aujourd'hui. Je crois que le premier concerne la plainte des indépendants au Bagatz.
Eh bien oui, les indépendants en ont marre. Donc c'est un article qui est paru ce matin dans le Yediot Ahronot. On en avait parlé à de nombreuses reprises dans le paquet de mesures qui ont été prévues pour les indépendants israéliens qui n'ont donc pas le droit au chômage et n'ont pas de droits sociaux, comme on le sait. On leur a quand même prévu la somme mirifique de 6 000 shekels par mois en inversement unique pour faire face à des business qui sont quand même, qui tournent généralement, qui parfois emploient des salariés, qui ont dû eux-mêmes licencier. Enfin, c'est quand même des gens qui ont, comme tout le monde, des loyers à payer, une famille. Donc, c'est évidemment pas du tout possible de faire face comme ça. Il se trouve qu'en Israël, il existe un fonds, qui est un fonds qui a été créé à la suite de la guerre du Liban pour pouvoir, à la suite d'une loi qui s'appelle le Keren, le Roc Mas Rerouch. Donc c'est un pourcentage qui est pris sur toutes les taxes d'acquisition en Israël, en particulier de l'immobilier, et c'est censé pouvoir servir à indemniser les entreprises lésées en cas de guerre. D'accord. Donc ce fonds a effectivement été abondé depuis des années et les indépendants demandent à être indemnisés sur ce fonds, même s'il ne s'agit pas d'une guerre au sens officiel du terme. Ils estiment que les circonstances sont suffisamment graves pour qu'on utilise, disent-ils, les milliards qui sont accumulés dans le fonds. Alors c'est un peu comme l'histoire du gaz, on ne sait pas exactement combien il y a dans ce fonds, mais apparemment il y a de l'argent. Et donc ils ont fait une requête auprès de la Cour suprême d'Israël contre le ministre des Finances et contre le gouvernement en réclamant être indemnisé à hauteur des dommages. Donc, je voudrais juste faire un petit point très, très rapide pour rappeler la taille des packages qui ont été prévus dans le reste du monde. Il faut quand même comprendre qu'hier, la chancelière allemande Angela Merkel a annoncé que l'Allemagne va dépenser 10% de son PIB, soit 360 milliards d'euros, pour pouvoir soutenir le secteur des affaires. Elle a bien.
Mais dans son ensemble, pas seulement les indépendants.
Oui, bien entendu, oui, tout à fait, les entreprises. Mais elle a bien expliqué que sans entreprises, il n'y a pas de pays. De la même façon pour les salaires. Donc là, on parlera après des indemnités chômage. Mais en Allemagne, on a prévu de maintenir à tous les salariés la totalité de leur salaire, sans limite de temps, pratiquement identique aux États-Unis, où on a prévu des réductions d'impôts pour les entreprises, des moratoires sans limite de temps sur la totalité des dettes et de tous les impôts à payer à l'État. En Angleterre, on va subventionner les entreprises pour qu'elles ne licencient pas. Mmh. Une société qui réengagera ses salariés recevra une aide, etc. Donc en Israël, pour l'instant, on est quand même à 7 milliards de shekels. Malgré tout ce que l'État affirme qu'il s'agit de 30 milliards de shekels, ce n'est pas vrai du tout. L'argent qui va être déboursé effectivement pour l'instant, c'est 2 milliards de shekels. Voilà, donc on est très très loin. Le gouverneur de la Banque d'Israël ne cesse d'exhorter le gouvernement. Tous les jours, il donne une interview dans un média différent. Ce matin, c'était Calcaliste. J'ai pas choisi cet article. Mais une fois de plus, lui aussi affirme que si on ne rentre pas la main très profond dans la poche, comme on dit en hébreu, ça va très très mal se passer pour l'économie israélienne et qu'elle peinera à se remettre de la crise.
Alors, ça, c'était pour le premier article concernant donc les travailleurs indépendants en Israël. Une bonne nouvelle, vous avez trouvé également un article qui parle d'une personne qui, héroïquement, achète du matériel médical pour l'État d'Israël. Il y a eu également des dons très importants, comme celui de la Fondation Rothschild en France, et puis du Keren Hayedidout aussi, qui a donné une grosse somme d'argent pour les hôpitaux israéliens. Mais qui est ce héros ?
Écoutez, c'était un article absolument passionnant qui est paru dans le supplément du week-end du journal Le Marqueur. Il s'agit d'un monsieur qui s'appelle Avi Bouskila et il dirige une société qui s'appelle Sarel. Et cette société est chargée d'acheter pour le compte de l'armée et pour le compte de différents ministères de l'équipement médical à travers le monde. Et donc, dans cette interview de Ronnie Linder, absolument passionnante, il nous raconte comment il se trouve depuis plusieurs mois dans une guerre apocalyptique contre tous les États du monde pour pouvoir acheter un matériel qui se trouve évidemment en stock limité. C'est la guerre aux masques, c'est la guerre aux combinaisons, c'est la guerre aux médicaments. Il raconte que chaque jour, donc il gère également les entrepôts de l'État, donc chaque jour il fait partir plus de 30 camions pour emmener du matériel dans les hôpitaux. Il raconte aussi les pays, les frontières qui se ferment, le nombre de conteneurs qui ne suffit plus parce que de nombreux conteneurs sont bloqués en Chine et en Corée du Sud. Il raconte les usines qui sont réquisitionnées dans certains pays, par exemple l'Allemagne qui a maintenant annoncé qu'elle n'exporterait plus de masques, la Turquie qui a transformé toutes ses usines textiles en usines de fabrication de combinaisons et de salopettes. Il raconte également quelque chose de beaucoup moins glorieux, qui est l'arrivée sur le marché, comme vous pouvez l'imaginer, de toutes sortes de personnages louches et d'intermédiaires de deuxième et de troisième main qui surgissent pour prendre des commissions. Il raconte comment on travaille maintenant avec les ambassades d'Israël à l'étranger, qu'il envoie les attachés commerciaux des différentes ambassades dans les usines afin de vérifier que ce qu'il va acheter existe bien, après s'être fait arnaquer un certain nombre de fois, avoir versé des avances, et que la marchandise n'arrive jamais. Il raconte les contrefaçons. Il raconte comment, par exemple, la société 3M, une énorme société qui fabrique du matériel médical à travers le monde, a un gros sous-traitant au Mexique, à qui Israël avait l'habitude d'acheter du matériel médical depuis des années, et que le sous-traitant a décidé qu'il gagnerait beaucoup plus d'argent s'il arrêtait de travailler pour 3M et qu'il vendait directement en lui mettant dans les pattes toutes sortes d'intermédiaires. Alors on imagine, il ne le raconte pas, mais qu'il doit y avoir des pots de vin, des opérations de nuit comme celle un petit peu du Mossad, et on se rend compte des efforts colossaux qui sont déployés par l'État. Pour tous ceux qui se plaignent du manque de matériel, on sait que c'est pareil partout dans le monde, mais alors là, il nous montre un peu les coulisses de cette entreprise. Il nous annonce que, par exemple, la semaine dernière, ils ont trouvé dans un pays qu'il n'a pas voulu citer 250 000 masques chirurgicaux. Ils n'ont pas hésité à envoyer un avion militaire. Il a dit maintenant on ne prend plus de risques. Si le transport maritime, on a l'impression qu'il a la moindre chance qu'il reste bloqué ou qu'il n'arrive pas, on y va, on envoie l'armée, on envoie un avion. Il raconte également la pénurie d'eau de Javel. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'inouï. Ça donne une espèce de regard, c'est-à-dire c'est la débrouille à l'israélienne, c'est l'initiative, c'est la capacité à improviser. Mais tout ça sur un marché mondial où il faut comprendre que tous les pays se battent pour la même marchandise. Et j'ajouterai une bonne nouvelle, Emmanuel, vous vous souvenez de l'histoire des goupillons dont on a parlé.
Bien sûr que le Mossad avait oublié de prendre avec lui.
Exactement. Donc la société MyHeritage qui fait les tests génétiques en a donné également quelques dizaines de milliers à Israël qui doivent être adaptés, d'après ce que j'ai compris. Mais surtout, une très bonne nouvelle, c'est qu'une usine du sud d'Israël est en train d'être transformée et à partir de la semaine prochaine va commencer à fabriquer ces fameux goupillons. Une autre usine va également commencer à fabriquer pour début mai les fameux masques N95, qui sont les masques dont on a le plus besoin.
Et je fais vraiment une petite remarque. J'espère qu'ils vont fabriquer ça en masse pour pouvoir distribuer à tout le monde.
Ah oui, parce que moi cet après-midi, Emmanuel, j'ai été faire des courses au supermarché près de chez moi et j'ai été révoltée de voir une femme qui se baladait pour faire ses courses avec un masque de chirurgien N95. En France, c'est strictement interdit, ils sont réservés aux personnels médicaux. Si on vous voit avec un masque N95, si un policier vous voit avec un masque N95, vous êtes verbalisé. Et bien ici, les gens se promènent avec et j'étais vraiment très choquée. Donc je l'ai regardé d'un air un peu
réprobateur. Mais c'est peut-être quelqu'un qui fait partie du personnel médical, non ?
Il se balade sans. Il y a tellement de personnes qui se baladent sans masque, sans gants. Enfin, j'en ai vu encore tout à l'heure.
Non, parce qu'un simple masque chirurgical suffit pour se protéger dans la rue. Un masque N95, c'est un masque chirurgical dont il y a une très, très, très petite quantité et qui doit être réservé au personnel médical. Et le masque ne protège que ceux qui sont malades, ne protège pas les gens, ne vous protège pas de la contamination.
C'est ça. Un autre article, Yaël, sur les scénarios qui divergent des finances et de la santé pour la reprise du marché.
Eh bien exactement, mais moi c'était un article qui m'a plutôt réjoui, parce qu'en fait c'est un article de Mera Barlozorov.
Réjouissez-nous un petit peu parce que...
Mais figurez-vous que ça y est, on parle déjà de la fin de la crise ouvertement au ministère des Finances. Alors oui, bien sûr, on est un peu en douche écossaise, un coup du froid, un coup du chaud, un coup c'est les milliers de morts, un coup on ne sait pas quand ça va finir. Eh bien non, alors au ministère des Finances et au ministère de la Santé, on est déjà en train de travailler sur les scénarios de sortie de crise, particulièrement d'ouverture du marché. Donc, le ministère des Finances, lui, a posé 3 principes de base. Et je vais vous dire après quelles ont été les conditions qu'a posées le ministère de la Santé. Vous imaginez que ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, le ministère des Finances, lui, il estime qu'il faut que 3 conditions soient réunies. La première, c'est que le système de santé ait donc le temps de se préparer pendant cette période qu'on a maintenant de confinement massif, avec l'ajout de lits, l'ajout de ventilateurs, évidemment, l'ajout de tests, de départements confinés dans les hôpitaux, etc. Donc, une meilleure organisation du système de santé pour qu'il puisse gérer un plus grand nombre de malades sans s'effondrer. La deuxième condition, le ministère des Finances est en train de mettre en place un système pour qu'on puisse aider les plus faibles. C'est-à-dire qu'on passe à un système dont tout le monde parle également depuis plusieurs jours, de protéger les personnes âgées, de protéger les malades chroniques, en utilisant probablement des systèmes de soldats qui iraient leur apporter tout ce dont ils ont besoin, ou en faisant travailler le picou d'AOREF, l'arrière, qu'on appelle l'arrière.
Le picou d'AOREF est en train justement de mettre en place tout un système de défense passive et de protection des citoyens.
Eh bien, exactement, voilà. Donc, il pourrait s'occuper de protéger ces personnes qui sont plus fragiles. Le troisième principe également que met en place le ministère des Finances, c'est que quand les employés retourneront sur leur lieu de travail, qu'on sache que qu'ils pourront se tenir à 2 mètres l'un de l'autre, que les entreprises pourront travailler dans les conditions qui sont exigées. Donc, on va dire que c'est un scénario où il y a 3 possibilités qui paraissent accessibles, disons. Alors, le ministère de la Santé, lui aussi, Moshe Barsimantov, hier, a dit oui, il faut se préparer à l'ouverture du marché, après Pessah de préférence. Par contre, les conditions, c'est plus du tout les mêmes. Alors, pour le ministère de la Santé, ils exigent d'abord de pouvoir mettre en place une application qui permettrait de suivre les personnes et de s'assurer qu'elles respectent les conditions d'éloignement social nécessaires, y compris sur le lieu de travail. Comme en Corée du Sud, on a mis en place une application qui permet physiquement de vérifier que les salariés sont bien éloignés de 2 mètres l'un de l'autre dans leur bureau.
Ouais, mais là, c'est la surveillance très étroite. Hein.
Complètement, voilà. Donc, il faudrait que ça soit accepté. Déjà, l'application est en cours de développement, sachez-le. Mais il faudrait qu'effectivement, elle respecte les principes de la liberté des citoyens. C'est un petit peu compliqué, mais pour l'instant... Oui.
Justement, comme vous parlez d'application, il y a cette application Magen qui vient d'être lancée par le service public, justement, et qui propose en fait de vous dire à quel moment vous vous êtes trouvé près d'un malade contaminé.
Ah ben voilà, c'est une phase qui est avant celle dont je parle, mais ça serait déjà extrêmement utile, effectivement.
Mais ça veut dire aussi que l'application vous suit. Partout où vous allez.
On imagine bien, c'est localisé avec le GPS. Mais c'est ça. Comme aussi, comme les applications Tinder, c'est aussi un peu la même chose.
Oui, tout à fait.
C'est des applications qui savent où vous vous trouvez. Il faut donner son accord, évidemment, quand on télécharge l'application.
Cela servirait uniquement si les personnes contaminées ne sont pas en bidoude, en tout cas sont sorties de chez elles ou sont sorties de l'hôpital et se retrouvent dans la nature et que vous arrivez au supermarché et vous vous trouvez à proximité d'une personne contaminée. Et dans ce cas-là, il faut tout de suite vous mettre, vous également, en isolation.
Ça va faire du monde, hein. Ça n'a rien à dire.
C'est compliqué.
Alors, moi, je continue avec mes conditions du ministère de la Santé.
Oui, pardon, excusez-moi, je vous ai interrompu.
Non, mais pas du tout. Parce que vous allez voir que la deuxième pas piqué des hannetons. Le ministère de la Santé exige que toute personne qui voudra retourner au travail fasse un test sanguin et qu'il prouve qu'il a développé des anticorps au virus du corona. C'est-à-dire qu'il a peut-être été malade, sans le savoir. En tout cas, s'il n'a pas été exposé, il ne pourra pas retourner travailler. Si quelqu'un n'a pas développé d'anticorps sans avoir été malade, alors je ne sais pas ce qu'ils ont prévu, parce que ça, ils n'en parlent pas dans l'article, mais c'est fou. Ça voudrait dire qu'il faut l'attraper exprès, je ne sais pas très bien. Mais en tout cas, ils veulent n'envoyer au travail que des gens qui sont déjà immunisés. Et la troisième condition est une condition beaucoup plus politique, géopolitique et beaucoup plus compliquée. Le ministère de la Santé surveille avec énormément d'inquiétude ce qui se passe à la fois en Cisjordanie et à la fois dans la bande de Gaza. Et ils se rendent compte que les deux populations sont imbriquées étroitement, c'est-à-dire que vous savez bien, en Cisjordanie, on ne peut pas vraiment faire de différence entre un yishuv juif et le yishuv palestinien arabe qui est en face. Et donc, du coup, les populations travaillent ensemble, se croisent sur les routes, se croisent dans les centres commerciaux. Et donc, pour Israël, tant que le problème du corona dans les territoires palestiniens et dans la bande de Gaza n'aura pas été réglé, on ne pourra pas envisager de retour à la normale. C'est la partie de l'article qui m'a un petit peu inquiétée.
Donc, on dépend de l'état des territoires palestiniens et de la bande de Gaza pour savoir ce qui va se passer chez nous. D'ailleurs, on a appris aujourd'hui que le Qatar allait envoyer une forte somme d'argent à Gaza pour aider à l'infrastructure médicale.
ça se comprend, hein, parce que là, il y a une telle, densité de population.
Alors, Yael, revenons maintenant sur les scénarios terribles qui sont ceux du chômage et surtout des services sociaux qui vont voir arriver et débarquer des nouveaux pauvres.
Exactement. Alors ça, c'est encore un article du magazine Calcalis d'hier. C'était la une du Calcalis. D'ailleurs, ça m'a beaucoup frappée parce que c'est pas leur habitude de faire des unes entre guillemets sociales. C'est plutôt un journal financier. Mm-hmm. Et là, en fait, bah, c'était indiqué en énorme. Israël n'est pas prêt à gérer un grand nombre de nouveaux pauvres. Donc moi, ça m'a beaucoup interpellée. J'ai regardé l'article. Effectivement, bon, alors moi, j'ai beaucoup travaillé sur tous les sujets du rapport de la pauvreté du Bitoir Léoni. On sait qu'Israël n'est pas dans une situation si glorieuse que ça, et qu'en particulier, on a un très grand nombre de salariés qui se trouvent juste au-dessus de la ligne de pauvreté. Mmh. Et en Israël, on sait que toutes les mesures pour lutter contre la pauvreté sont des mesures qui sont basées sur le travail. Que ce soit par le biais du Maanak Avoda, c'est-à-dire de la bourse que l'on reçoit si on travaille pas un nombre d'heures complet pour avoir un salaire, donc l'État complète, ou que ce soit par l'augmentation du salaire minimum qui a augmenté assez régulièrement dans les dernières années. Alors tout ça, c'est très bien, mais tout ça, c'est parfait quand les gens travaillent, parce qu'en Israël, on avait un marché jusqu'à il y a un mois, hein, on avait un plein emploi. Or, ce qui va se passer là, c'est que ces gens qui ne dépendaient que du travail, qui n'ont pas généralement beaucoup de patrimoine, ni non plus d'économie, puisqu'ils sont juste au-dessus de la ligne de pauvreté, vont se retrouver sans travail.
Ah oui, il suffit de 2-3 mois sans salaire et ça y est.
Ah ben bien sûr, et puis c'est aussi le moment de rappeler que Israël est un des pays les moins généreux du monde en matière d'allocation au chômage, que d'abord les allocations chômage sont très très basses, que le maximum d'allocations chômage qu'on peut toucher, Emmanuel, même si on gagnait 20 000 shekels par mois, ça, c'est 9 000. Que quelqu'un qui gagne le salaire minimum va toucher, si je ne me trompe pas, 4 300 shekels par mois s'il a plus de 28 ans, et 3 300 shekels par mois s'il a moins de 28 ans.
Donc Qu'est-ce qu'on fait avec 3 300 ?
Et je ne parle même pas de la durée d'indemnisation qui est extrêmement courte, puisque les jeunes vont toucher environ 50 jours d'indemnisation. C'est-à-dire que ça fait un mois et demi, hein, donc 2 mois. Mm-hmm. Et il faut avoir charge de famille et être âgé et avoir plus de 3 enfants pour arriver au sésame de 175 jours, qui est donc 6 mois. Donc vous imaginez, hein, par rapport à... voilà, c'est très 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 peu. La durée d'indemnisation est vraiment une des plus faibles du monde. Même aux États-Unis, on touche plus de chômage qu'en Israël, il faut le comprendre. Donc c'est très compliqué. Et du coup, le professeur John Gall, qui a été interrogé dans cette interview, il nous explique que oui, ces gens-là vont plonger tout de suite parce qu'ils n'ont pas d'économie, parce qu'ils n'ont pas de matelas, de sécurité. Ce ne sont pas des gens qui vivent d'allocation. Ce sont des gens qui ne vivent que de leur travail. Mmh. Et c'est pour ça qu'une fois de plus, il faut en appeler à des mesures généreuses et à allonger la durée d'indemnisation absolument pour ne pas se retrouver avec des personnes qui après auront beaucoup de mal à re-rentrer sur le marché du travail.
Tout à fait. Alors justement, les points zakaout du chômage, ces fameux points que l'on voit sur nos fiches de paye.
Oui. Alors, ce qui se passe avec la zakaout pour le chômage, donc il y a 2 choses. Hein. Il faut pouvoir être éligible au chômage. Mm-hmm. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle la harshara, c'est-à-dire le nombre de jours qu'on a travaillé et qui donne droit à des indemnités. Donc la zakaout, c'est le fait d'être éligible. Donc pour être éligible, il faut être citoyen israélien. Il faut être âgé d'entre 20 et 67 ans. Donc on en a déjà parlé, ceux de moins de 20 ans, et en particulier les soldats qui viennent de finir l'armée, souvent ne sont pas éligibles. Les gens de plus de 67 ans ne sont pas indemnisables, alors que souvent ils ont tout petit revenu minimum et travaillent pour le compléter. Donc c'est très problématique. Alors imaginons qu'on rentre dans ces catégories entre 20 et 67 ans. Alors dans ce cas-là, il faut avoir été mis en congé sans solde pour une durée de plus de 30 jours. Ou avoir été licencié, bien entendu. Ça, c'est la première chose. Mm-hmm. Donc, je rappelle que les gens qui sont en bidoud, qui sont en confinement, n'ont pas le droit au chômage. D'accord ? Les gens, ils doivent se faire exploiter leurs jours de maladie. C'est comme ça. On n'a pas prévu d'indemnisation pour les gens qui sont en bidoud. À partir du moment où on a été mis en congé sans solde, on peut être payé à partir rétroactivement à partir du 1er mars. Toutes les personnes qui n'ont pas pu accéder au site parce qu'il était trop chargé seront payées à partir du 15. Bon, ça, il n'y a pas de problème. Comment on fait ? Alors oui, je finis. La durée, donc ce qu'on appelle la harshara. Auparavant, il fallait avoir travaillé 12 mois sur les 18 derniers mois, donc un an sur la dernière année et demie, c'est quand même beaucoup. Et donc là, le bitoire Léoumi a changé les règles pour tous les congés du corona, et c'est seulement 6 mois sur les 12 derniers mois. Donc il suffit d'avoir travaillé 6 mois dans l'année dernière pour pouvoir toucher les indemnités chômage. Comment on fait? Très 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 rapidement, on doit s'inscrire dans deux organismes. Il ne faut pas se tromper. En Israël, il n'y a pas un seul, mais deux. Donc d'abord, on s'inscrit sur le site en ligne de la Lishka, la Taasuka, c'est-à-dire c'est le Pôle emploi. Quoi.
Le Pôle emploi,
on déclare qu'on est à la recherche d'un emploi, on remplit une espèce de petit questionnaire avec son métier, quel âge, etc. Et ensuite, on va sur le site du bitoire Léoumi, qui va vous demander « Est-ce que vous êtes inscrit à la Lishka de la Taasuka ?» Et là, vous dites « Oui » et vous re-remplissez. Par contre, il faut remplir un dossier complet. En hébreu, ça s'appelle une tvia. Ça veut dire une plainte. Oui. Ne pas s'inquiéter. Vous ne portez pas plainte contre le bitoire Léoumi. C'est une réclamation.
C'est une réclamation,
c'est une demande
exactement.
D'indemnisation. Mm-hmm. Et vous allez devoir fournir toutes sortes de papiers. Donc, préparez-vous. Vous devez scanner vos bulletins de paye. Vous devez scanner votre fin de travail. Enfin, c'est-à-dire le document par lequel on vous a mis en congé sans solde, etc. Vous avez un système qui est très bien fait où vous mettez en ligne tous vos documents. Et le bitoire Léoumi traite les documents très très rapidement et vous serez indemnisé rétroactivement. Ne pas s'inquiéter.
Très bien. Yael Ifra, je vous remercie beaucoup pour toutes ces explications et tous ces renseignements si importants aujourd'hui pour nos auditeurs. À très bientôt sur les ondes de Cannes.
Merci Emmanuel, bonne soirée.
Vous venez d'écouter une émission de Cannes Israël dans le cadre du partenariat entre la radio Cannes Israël, la radio publique d'État israélienne et RCJ. Vous pouvez réécouter cette émission en téléchargeant notre application mobile.